Vous écoutez France Culture.
Comment 6 heures ?
Jeudi 19 juin, bonjour tout le monde, un autre jour est possible, votre réveil culturel avec au programme dans un instant l'anthropologue Philippe Gélin qui nous emmène au Groenland pour une semaine avec les Inuits. Vous avez promis de ne pas parler de foot, mais que voulez-vous, même les Inuits adorent le foot. Donc aujourd'hui, quatrième et avant-dernier épisode de la série. Et puis en deuxième partie, on parlera de foot et j'assume, mais foot, politique et histoire au Brésil avec Olivier Guez qui sort chez Grasset, un petit livre fort éclairant sur l'art du dribble, éloge de l'esquive. Tout de suite, notre série avec l'ethnologue Philippe Gélin. Un été avec les Inuits, aujourd'hui quatrième épisode des métamorphoses de la culture inuite. On a vu à quel point la chasse était importante dans la culture inuite. Philippe Gélin, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va voir à quel point cette pratique est menacée ou du moins, elle est confrontée à des changements.
Oui. Alors, on a beaucoup parlé de chasse. On a beaucoup parlé des animaux chassés, on va parler aujourd'hui...
Ou pêcher d'ailleurs.
Ou pêcher, et on va parler aujourd'hui des chasseurs, les derniers chasseurs du district. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chasseurs sont vraiment des hommes respectés dans leur communauté. Ils sont tous chasseurs. Je veux dire ici qu'il s'agit encore de leur profession à temps plein ou à 50%. Notons... Entre parenthèses, qu'au nombre de licences de chasse délivrées, les chasseurs représentent encore à peu près 20% de la population groenlandaise, ce qui n'est pas rien encore aujourd'hui. Alors les plus âgés chassent moins, bien sûr. Ils ont dû réduire leur nombre de chiens de 9, 11, voire 15 chiens pour tracter un traîneau. Ils sont passés à 5. Il faut pouvoir les nourrir, bien sûr, et pour les nourrir, il faut chasser le phoque. Et certains anciens nous disent très souvent que bientôt au Groenland, on tuera plus de chiens que de phoques. Les femelles sont, elles, conservées, gardées, parce qu'elles font de très bons chiens de tête. Alors, la viande chassée par les chasseurs est consommée, offerte ou vendue au sein de la communauté. Les peaux sont préparées par les femmes dans les maisons. Mais ce qu'il faut voir, c'est quel jeune Inuit sait aujourd'hui la richesse du vocabulaire. Quel jeune Inuit sait aujourd'hui la richesse du vocabulaire lié aux états de la glace et de la neige, à la direction des vents? Quel jeune Inuit sait dresser ses chiens pour la chasse aux phoques? Quelle jeune fille a encore envie de travailler la peau de ce dernier ou celle de l'ours pour en confectionner les vêtements qui protégeront des intempéries? En fait, comment extraire, par exemple, les tendons des quatre muscles plats de la queue du narval, qui sont des tendons pour faire les fils nécessaires à la couture des pièces qui nécessitent une parfaite étanchéité contre le froid et l'humidité? Ces savoirs ont disparu, des communautés. Alors, on le voit, cet univers polaire cristallise un ensemble de croyances, celles des Inuits, mais aussi celles des scientifiques. Les scientifiques n'y coupent pas. C'est un lieu de débat, comme nous le signalions dans les émissions précédentes. C'est un lieu de débat sur le réchauffement climatique. Des débats dont peu de chasseurs, curieusement, parlent aujourd'hui dans les villages. Ou alors avec des propos qui bousculent, qui nous étonnent. Des propos vraiment très, très, très surprenants. Et ces propos me renvoient à leur histoire, en fait. Il faut remonter au début du 19e siècle. Le Groenland a connu un petit réchauffement graduel de ses eaux, des eaux de la côte sud. Et les populations de phoques ont migré alors vers le nord, à la recherche d'eau plus froide. Et ce fut à l'époque un véritable bouleversement pour ces communautés, qui d'une activité de chasse durent passer à celle de la pêche. La pêche à la morue, qui apparut alors dans ces eaux réchauffées. Ce fut l'époque des premières pêcheries. On est dans les années 10, 1911. Et les gens commencèrent à se regrouper autour de ces nouveaux lieux de production qui leur garantissaient un emploi. On a parlé des déplacements de population dans les émissions précédentes. Et cette expérience est souvent donnée en exemple dans les échanges avec les chasseurs qui insistent vraiment sur leur grande capacité d'adaptation. Alors il constate, bien entendu, les changements. La modification des courants sape la banquise et des zones dangereuses, fragilisées, apparaissent là où l'année précédente le traîneau pouvait passer sans problème. Par exemple, chaque année à Couche-Lorchoir, avec mon ami Nicolas Dubreuil, quand nous allons relever les filets à Foc en compagnie d'Ouli Eliassen, je constate que les chemins diffèrent pour atteindre les caps où ils sont habituellement tendus. Les chiens détectent les zones fragilisées, ils permettent d'éviter les accidents. Là aussi, on s'adapte. On gère chaque situation au coup par coup parce que, en fait, chaque situation peut varier d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre. Alors, les chasseurs parlent du réchauffement climatique souvent à contre-courant des idées reçues. Ils insistent sur le fait, par exemple, qu'ils verraient d'un très bon œil que le Groenland puisse produire dans le sud ses propres légumes, ses propres fruits, sans avoir à payer des taxes d'importation qui font grimper les prix des denrées en provenance du Danemark, par exemple, et qui rendent la vie chère. D'autres vous diront enfin que l'exploitation minière favorisée par un tel réchauffement, mais aussi l'exploitation pétrolière, rappelons que les opérations de forage ont commencé en 2010 mais n'ont pas donné de résultats, eux partent du principe que cette exploitation minière, pétrolière, pourrait garantir des sources de revenus pour le pays, mais aussi du travail pour les jeunes. Et c'est notamment la voie dans laquelle s'est engagé le gouvernement sociodémocrate actuel en levant depuis le 25 octobre 2013, c'est récent, l'interdiction, par exemple, de l'exploitation minière des terres rares comme l'uranium. Alors, comment réagir à cela, en fait ? Depuis 2010, les communautés inuites subissent l'interdiction de vendre des produits dérivés du phoque. Notons qu'il y a quelques jours, l'OMC a rejeté l'appel du Canada et de la Norvège contre l'embargo européen. Quelles alternatives leur sont proposées ? Ce ne sont pas les quotas de chasse qui leur importent à ces chasseurs inuits. Après tout, il y a de moins en moins de chasseurs, c'est un constat. Ce qui leur importe, c'est l'amalgame en fait, qui a été fait dans les années 70 entre la chasse industrielle au bébé phoque, et là c'est un point important, une chasse industrielle qui, bien sûr, qu'il fallait proscrire en urgence sur les terres inuites du Canada, et la chasse aux phoques sur leur propre territoire. Jamais, jamais les Inuits du Groenland n'ont développé de chasse industrielle sur leurs terres, et encore moins celle des bébés phoques. La vente des pots de phoque garantissait souvent, pour les ménages, l'unique source de revenus qui leur permettait en fait, de se procurer les biens de consommation nécessaires à leur vie, sous ces latitudes. Il faut rappeler aussi que les quotas de chasse ne sont pas les premiers, de chasse aux phoques ne sont pas les premiers à avoir été imposés. Il faut rappeler que les premiers quotas ont été imposés en 1927 et que les Inuits s'y sont pliés, adaptés. Il s'agissait à l'époque de protéger le canard raider, dont les œufs étaient collectés en grande quantité par les populations inuites qui préparaient aussi ainsi leurs réserves pour l'hiver. Ensuite, plus récemment, en fonction des stocks évalués par les scientifiques, d'autres quotas se sont imposés, on les connaît, quotas qui sont respectés avec des prises qui sont souvent en deçà du nombre fixé. En fait, pour les Inuits du Groenland, ce qui est important, c'est vraiment la chasse aux phoques. Cette chasse aux phoques qui est mise en cause, en fait. Le phoque dont le stock était estimé, en tout cas en 2013, à autour de 8 millions de têtes pour un prélèvement cette même année estimé pour le Groenland à une centaine de milliers d'animaux. Au cours de mes nombreuses sorties de chasse aux phoques, j'ai constaté, et je le constate chaque année, en hiver sur la banquise ou en été, en bateau, jamais, jamais les chasseurs n'apportent plus que ce dont ils avaient besoin pour se nourrir et nourrir leurs chiens. Et cela, malgré un nombre conséquent d'animaux rencontrés sur la banquise ou dans la mer.
Alors en conclusion, Philippe Gélin, quand on parle de dérèglement climatique, on imagine que le monde court à sa perte, alors que les Inuits, ils pensent que le monde est en train d'évoluer, l'évolution du monde continue et qu'il faut s'adapter.
Oui, c'est exactement cela. Nous avons affaire à des communautés qui, de fait, dans cet univers extrême, n'a jamais cessé de s'adapter aux conditions climatiques. Et pour eux, effectivement, ce n'est pas une majorité, mais ces chasseurs, oui, partent du principe que, bien sûr, on le verra dans le prochain épisode.
Et le dernier.
Et le dernier.
Qui sera plus spirituel.
On le verra, oui. Pour eux, on s'adapte une fois de plus. Que pouvons-nous faire, me disent-ils.
Une dernière chose, et je vous laisse partir ce matin, Philippe Gélin, on a parlé de ces nuits sans fin, de cette période où le soleil disparaît, et ça dure quelques mois. Hein.
Entre 5, oui, autour de 5 mois pendant l'année. Oui, oui.
Et qu'en est-il de l'été inuit ?
Alors l'été inuit,
quand la nuit disparaît,
c'est toujours quelque chose de surprenant quand on vit là-bas pendant ces périodes. Parce que les habitants des communautés vont veiller très tardivement, ou je dirais jusqu'à très, très tôt le matin. Il n'est pas rare de voir les enfants jouer au football, par exemple sur la banquise. Hein, je parle des mois de mars-avril. Là.
Encore
mais oui, parce que c'est un sport très important qui réunit garçons et filles, hommes et femmes, dans des tournois intercommunautaires. Et on voit ces jeunes, par exemple, s'entraîner sur la banquise jusqu'à 3 heures du matin, parfois 4 heures du matin. Donc on est en pleine nuit, mais voilà, le village a toujours une activité réduite, somme toute, mais une activité bien réelle.
Est-ce qu'il y a une envie d'ailleurs chez la jeunesse inuite ?
Alors c'est compliqué. Vous avez de jeunes Inuits qui partent au Danemark faire leurs études, d'autres partent aux États-Unis. Je pense à un de mes amis Inuits notamment qui est allé faire un master à l'université de San Diego aux États-Unis. Par contre, pour les jeunes qui vivent dans les communautés les plus reculées, le fait de quitter sa communauté est toujours très très problématique. Il y a énormément d'angoisse générée par cette obligation d'aller en fait de quitter sa communauté pour aller tout simplement se former dans une autre communauté, parce que vous avez dans cette communauté par exemple un lycée technique qui peut vous accueillir. Voilà, c'est toujours vécu comme une déchirure par les jeunes.
Est-ce qu'il y a des étrangers qui vivent parmi les Inuits ?
Bien sûr.
Je ne parle pas des scientifiques qui sont là pour des raisons professionnelles, disons, et surtout ils sont là de passage, mais ceux qui décident de vivre avec les Inuits ?
Alors, des Danois sont présents, bien sûr. Dans le village de Couche-Lorchoir, par exemple, l'une des institutrices est d'origine allemande. Elle vit là, elle parle Inuit, elle enseigne l'anglais. Aux jeunes Inuits, vous avez toute une population, oui, dont on ne parle pas, mais qui est bien présente dans ces communautés, qui vit au quotidien de façon saisonnière.
Merci Philippe Gélin, à demain.
À demain.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Creio, peço a Deus por minha gente, é gente humilde, que vontade de chorar.
Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour.
Vous êtes donc écrivain, romancier, scénariste, essayiste, et vous venez de sortir chez Grasset ce livre très court mais très intéressant, très éclairant sur le Brésil, sur le football et sur, j'allais dire, l'éloge de l'esquive, ça c'est le titre de votre ouvrage, et sur le dribble à partir d'un joueur emblématique brésilien, le premier à avoir offert à son pays la Coupe du Monde. Du coup, grâce à votre texte, j'ai appris d'où venait le dribble.
Alors oui, d'où venait, en tout cas, comment est né le dribble au Brésil, puisque évidemment, on a commencé à dribbler avant, bien avant, fin du 19e siècle, puisque le foot a été inventé en Angleterre dans les années 1860. Mais le Brésil, c'est très particulier. En fait, il faut remonter un petit peu à l'histoire du Brésil à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Dans cette société post-esclavagiste, le foot a été importé par les Britanniques. C'est un sport de blancs, de riches, plutôt snob. Les premiers grands clubs sont des clubs de régate aussi, notamment à Rio. C'est le cas du Botafogo, du Flamengo, du Fluminense, qui sont toujours les très grands clubs de Rio. Et les Noirs ne sont pas acceptés ni comme joueurs ni comme adhérents. Les Noirs jouent aussi de leur côté, puisque très rapidement le foot devient très populaire au Brésil. Et en fait, les premiers joueurs de couleur, qui sont des métis, vont devoir se travestir pour pouvoir jouer justement avec les autres, les Blancs. Certains se couvrent le visage de poudre de riz.
C'est incroyable.
D'autres vont se lisser les cheveux. Et celui qui se lisse les cheveux, notamment, s'appelle Arthur Friedenreich, qui est la première grande star du foot brésilien. On le surnomme le Tigre, c'est le buteur le plus prolifique de l'histoire du foot. Et cet Arthur Friedenreich a un style très particulier. Il esquive ses adversaires. Il esquive ses adversaires, il les feinte, et c'est comme ça que naît le dribble au Brésil. Et avant tout, pour éviter en fait les charges de ses adversaires blancs, ces charges des fautes qui sont rarement sanctionnées. Et en fait, les premiers dribbleurs de couleur au Brésil dribblent pour sauver leur peau avant tout. Donc ça n'est ni esthétique, ni par jeu, ni par plaisir, mais c'est avant tout pour éviter les contacts et les problèmes.
Et dans les années 50, est-ce que c'est la même problématique qui se pose au Brésil ?
Non, c'est pas du tout la même problématique, puisqu'à partir des années 30, en fait, le foot va devenir professionnel, les Noirs vont entrer en masse sur le terrain, il y a les premières grandes stars noires du foot brésilien, comme Leonidas à la Coupe du Monde 38. Et dans les années 50, en fait, c'est plus la perpétuation d'un style et la naissance d'une génération dorée que vont symboliser en fait deux joueurs, Garrincha et Pelé. Garrincha qui est sans doute le plus grand dribbleur de l'histoire et Pelé qui est un immense dribbleur mais qui est le joueur le plus complet en fait. Donc ce sont deux joueurs de couleur. Garrincha est un métis, moitié indien, moitié noir. Pelé est complètement noir, pardon. Et ces deux joueurs vont symboliser ce style brésilien et d'une certaine manière aussi la modernité du Brésil.
Alors, vous consacrez ce livre « Éloge de l'esquive » à Garrincha.
Pas entièrement, mais disons que Garrincha en est un des symboles, on va dire.
Oui, c'est vraiment le symbole, parce que vous dites on allait le voir comme on allait un peu au cirque.
Complètement. Parce que Garrincha a une personnalité fascinante, c'est beaucoup plus qu'un footballeur. Déjà, il a une personnalité très, très, très particulière, Garrincha.
Et une histoire.
Une histoire très particulière.
Marquée au corps.
Déjà, il avait un physique qui aurait dû l'empêcher de devenir un sportif de très haut niveau. Il a eu la polio, il avait les jambes complètement tordues. Intellectuellement, il est resté infantile, pour ne pas dire débile, toute sa vie. Il était obsédé sexuel aussi, ça a été prouvé. Il a eu au moins 13 enfants. Mais par contre, c'était un joueur absolument exceptionnel, qui faisait toujours un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire, il partait systématiquement à droite, mais ses adversaires ne savaient jamais quand est-ce qu'il allait démarrer. Et à partir du moment où il démarrait, dans ses plus belles années, il était quasiment inarrêtable. Et c'était un joueur très particulier, oui, dans la mesure où aussi, lorsque vous avez cité ce passage, je dis effectivement où les spectateurs allaient au cirque, parce que souvent, au lieu d'être efficace et de chercher à donner son ballon, souvent il revenait en arrière et il recommençait son exhibition diabolique. Donc c'était un peu comme les Harlem Globetrotters quelques années plus tard.
Olé, on allait voir Garrincha comme on allait au cirque. On l'a comparé à un clown, à Houdini, à Charlie Chaplin et à Buster Keaton. Moi, il me fait penser à un personnage de Tex Avery. Titi, échappant à Grosminet, comme le canari, il invente toujours de nouvelles ruses et s'en sort miraculeusement. En accéléré, sur les images en noir et blanc, il ressemble à une mouche insaisissable à cause de ses déplacements, de ses zigzags, de ses arabesques improbables.
Tout à fait. Vous le dites. Mais vous êtes jeune, Olivier Guez. Comment vous l'avez découvert, ce Garrincha?
Moi, je me suis toujours intéressé au foot.
À l'histoire du foot.
Dans le bouquin, à 8 ans, donc, j'ai eu la chance de tomber sur la Coupe du Monde 82, qui était assez exceptionnelle. Une grande équipe de France, une immense équipe du Brésil. Et, donc ça m'a énormément marqué. Et puis j'ai découvert énormément de choses avec le foot, gamin. J'ai appris la géographie, j'ai appris l'histoire, j'ai appris un peu les rivalités entre différents quartiers ou même différentes factions politiques à travers des clubs de foot. Et très naturellement, je me suis penché sur l'histoire du foot brésilien, puisque j'ai aussi une passion pour l'Amérique du Sud et le Brésil en particulier. Donc tout ça se marie. Et si vous intéressez au Brésil, vous êtes obligé de vous intéresser au foot. Si vous intéressez au foot, vous êtes obligé de vous intéresser au Brésil. Donc en fait, je ne pouvais pas y échapper.
Alors, que reste-t-il de ce foot-là à la veille du match France-Suisse?
Alors, entre les Français et les Suisses, pas grand-chose. C'est pas du tout la même école de football.
On pourrait peut-être se poser la question, quand on voit vraiment l'équipe française, est-ce qu'ils viennent d'un milieu populaire? Est-ce qu'ils sont porteurs d'une histoire un peu comme Garrincha?
Alors oui, pour la plupart, ils ont des origines modestes et le foot leur a permis de se sortir justement de ce milieu modeste. Maintenant, l'une des grandes particularités des footballeurs brésiliens, c'est que ce sont leurs racines africaines en fait. Et Griezmann, par exemple, je pense qu'on peut chercher très très loin à remonter son arbre généalogique. Je ne pense pas qu'on trouvera des arrière-arrière-grands-parents venus d'Angola. Mais, on retrouve un petit peu peut-être dans la rigueur défensive française, qui définit un peu le foot français depuis 15-20 ans. Mais c'est sûr qu'en termes de style, en termes d'arabesque, évidemment, il y avait Zidane ces 15-20 dernières années. Mais sinon, le foot français ne se définit pas par ces techniques de dribble. En tout cas, depuis la très grande équipe de 82, on est passé à un autre système en France, beaucoup plus défensif.
Olivier, est-ce que vous parlez de Garrincha? Vous dites que ce roi de Rio représentait vraiment le Brésil, les entrailles du Brésil, avec sa gueule de bagnard, ses épaules de lutteur et ses cuisses de feu. Ce métis de sang noir et indien ressemble à ses admirateurs, simples, créatifs, joyeux. Et quelque part, vous nous expliquez que le public qui venait le voir, l'acclamait, se reconnaissait en lui.
Bien sûr, c'était le meilleur d'entre eux, entre guillemets. C'était le pire d'entre eux, à la fois. Parce que bon, voilà, le meilleur, parce qu'il a été un joueur exceptionnel, vraiment, vraiment extraordinaire. Rien, à lui seul, quasiment, il a fait gagner la Coupe du Monde au Brésil en 1962, au Chili. Avec le Botafogo, il a brillé. Et parce que c'était le pire d'entre eux, parce qu'il s'est laissé avoir par l'alcool, il s'est laissé avoir par ses besoins sexuels absolument délirants, il s'est perdu, il a eu beaucoup de malchance, mais tous ces gens ont en général beaucoup de malchance. Il a quand même assassiné, entre guillemets, la mère de sa femme, il lui a roulé dessus, il l'a écrasé. Il a aussi écrasé son père, mais qui s'en est sorti, son père à lui. Et donc, à la fois...
Sa fin est tragique, hein, elle est pathétique, tragique.
Ouais. Complètement, il meurt relativement jeune, à 49 ans, abandonné de tous, alcoolique au dernier degré, et il meurt effectivement d'une cirrhose, d'un coma éthylique. Et les Brésiliens l'avaient laissé un peu tomber, parce qu'ils en avaient marre un peu de ses frasques, puisqu'il a abandonné sa première femme. Ils avaient 10 petites filles ensemble. Il est tombé amoureux de cette chanteuse de samba, qui s'appelle d'ailleurs, puisqu'elle vit toujours, Elsa Soares. Et les 10 dernières années, il avait été complètement oublié. Et les Brésiliens, lorsqu'il meurt, veulent lui rendre hommage. Et ils descendent vraiment par millions dans les rues pour saluer sa dépouille, son cercueil et l'église même de son bled qui s'appelle Pau Grande est sur le point d'exploser, en fait, tellement il y a du monde, tellement les gens se retrouvent.
Mais c'est pour lui, parce qu'il incarnait quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la cohésion d'équipe, d'une équipe, d'une... voilà.
Non, tout à fait. Il a incarné un football presque amateur. Il a incarné une certaine naïveté.
Et ça, c'est fini.
Il a incarné Non, le football amateur existe toujours. Et il suffit de passer, comme je l'ai fait, quelques jours au Brésil ou quelques semaines pour comprendre que cette philosophie. La Coupe du Monde, il y a trop d'enjeux financiers, il y a trop d'enjeux politiques, trop d'enjeux géopolitiques. Même si on voit des choses intéressantes depuis le début de cette Coupe du Monde. Le football est plus offensif qu'il y a 10-20 ans, par exemple. Mais il y a trop d'enjeux. Les joueurs sont des athlètes hors normes. Aujourd'hui, quelqu'un comme Garrincha pourrait faire peut-être une, deux saisons. Mais
alors, Garrincha, c'est qui
chance.
Aujourd'hui? Ce serait plutôt Anelka, Nasri, ceux qu'on expulse?
Non,
ce
pas
serait
du
qui
tout.
Alors.
Non, Anelka, Nasri, ce sont d'abord ils font des très longues carrières.
Mais on les expulse sous prétexte qu'ils ne peuvent pas s'intégrer à un collectif.
Je pense que le cas d'Anelka et de Nasri sont très différents. C'est pas tellement la question de les expulser d'un collectif. Ce sont des grands professionnels. Je pense que et Anelka et Nasri n'ont pas le dixième de la candeur ou la naïveté de Garrincha. Garrincha, c'est un enfant. Je ne pense pas qu'Anelka et Nasri soient des enfants. Pas du tout. Je pense que ce sont des caractériels. Je pense que ce sont des égoïstes, pour la plupart. Mmh. Et eux, effectivement,
et
ont du mal à...
Est-ce qu'ils sont représentatifs, emblématiques de leur temps?
Oui, d'une certaine manière.
Et ceux de l'équipe de France qu'on va voir demain face à l'équipe
Est-ce qu'ils sont... Visiblement, ils sont... Il se marie plus à l'idée du collectif comme l'a développé Deschamps. Mmh. Des personnalités peut-être moins fortes, moins clivantes, mais qui sont peut-être plus agréables à gérer sur 5-6 semaines.
Est-ce que ça rend le foot plus passionnant, plus poli, plus intéressant ou moins?
Je Tout pense ça... qu'on n'a jamais aussi bien joué au foot qu'aujourd'hui. Mmh. Je suis étonné, là on a vu toutes les équipes jouer, je suis quand même très étonné par le niveau de la plupart des équipes. Quand on voit une équipe comme le Costa Rica dont on n'entend jamais parler, les Colombiens, il y a une concurrence qui est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien joué au foot, mais évidemment c'est dans ce sont des gladiateurs les joueurs. D'abord la plupart jouent en Europe donc ils se connaissent bien, et donc ça rend la chose d'une manière plus passionnante, mais il y a beaucoup moins de proximité, ils sont dans un autre univers. Et évidemment... Comme tout le monde, on regarde le foot très différemment à 40 ans qu'à 8 ans, où là on a des yeux de chimène pour...
Mais même avec le recul, Olivier Guez, dans Éloge de l'esquive, vous dites que cette équipe que vous n'avez pas connue hein, à l'époque de Garrincha, vous paraît plus excitante que l'équipe des 4R. Hein,
oui, mais parce qu'il y a justement y a cette candeur, ils sont très touchants quelque part. Il y a une espèce de spontanéité, une espèce la notion de plaisir qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui dans le foot professionnel.
Alors enfin, pour terminer, Olivier Guez, vous qui êtes intellectuel, vous êtes essayiste, romancier, vous écrivez pour le New York Times ou pour Le Monde. Quand vous suivez les matchs de foot, est-ce que vous avez cette distance-là où vous êtes comme tous les publics, c'est-à-dire à un certain moment, vous êtes derrière l'équipe de France et on y va?
Je suis un assez mauvais supporter, je veux dire. J'aime vraiment le foot pour le foot. Il m'arrive comme ça de me passionner pour des équipes. Par exemple, il y a 4 ans pour l'Uruguay, là ça a l'air moins bien parti cette année.
Moi c'est très mal parti parce que c'était l'Espagne que je supportais. Alors vous voyez,
on se retrouve à peu près dans la même situation, vous et moi. Ouais. Il va falloir reporter notre attention sur une autre équipe. Non, je suis fasciné par le foot. À la fois, j'aime le spectacle, j'aime vraiment ce sport-là. Et d'un autre, tout ce que le foot peut véhiculer, en fait, et permet de comprendre sur des sociétés est absolument fascinant.
Et on peut toujours comprendre la société à travers son équipe de foot.
Ah, je pense plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a 4 ans avec l'équipe de France en Afrique du Sud. C'était fascinant pour comprendre un petit peu tout ce qui tiraille la France actuellement. C'était génial, c'était fabuleux. C'était pas un spectacle particulièrement exceptionnel pour nous Français, mais si on veut comprendre la société
française...
Et en même
temps, la victoire et les promesses emblématiques de la victoire de 98, ça a duré le temps d'une saison, non?
Ça a duré le temps que l'équipe perde. Donc évidemment, ça peut pas durer très longtemps. Mais 2010, c'était passionnant. Mais comme 98, c'est-à-dire le foot véhicule toutes sortes de fantasmes, en fait. Les meilleurs comme les pires. Donc c'est passionnant.
Merci beaucoup. Vous avez un pronostic pour demain?
France-Suisse, en général, sont parmi les matchs les plus pénibles de toute forme de compétition européenne ou mondiale.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'il y a eu tellement de matchs nuls entre la France et la Suisse ces dernières années, en championnat d'Europe des Nations ou en Coupe du Monde. Je pense que les Français, cela dit, peuvent gagner peut-être 2-1, quelque chose comme ça, on va voir.
Merci Olivier Guez d'être Merci passé ce matin. Un autre jour est possible, une émission réalisée par Michel-Ange Vinti, avec aujourd'hui à la technique Jean-Richard Dufour, préparée avec Catherine Madure et à retrouver sur franceculture.fr. Demain, suite de notre série consacrée aux Inuits, et je recevrai en deuxième partie le dessinateur Josako de passage à Paris. Émission que vous pouvez bien sûr retrouver pour le podcast ou pour l'écoute, en passant par franceculture.fr. Dans un instant, Marc Winchet, bonne journée et à demain.